VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec et Bagassi Koura.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du jeudi 19 mars 2015, à la une ce soir.
Le Niger affirme avoir tué plus de 200 combattants de Boko Haram au cours des 10 derniers jours.
En République démocratique du Congo, de violents combats opposaient ce jeudi l'armée congolaise à l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre. C'est dans la province du Nord, Kivu.
En Tunisie, les autorités ont arrêté 9 personnes en rapport avec le massacre d'hier qui a coûté la vie à 20 touristes et 3 Tunisiens au musée du Bardo à Tunis.
En RDC, libération de 6 rappeurs arrêtés le week-end dernier. Et pendant ce temps, au Burkina Faso, les membres du ballet citoyen disent qu'ils réservent un grand accueil à leur camarade Ossibi Djouane, expulsé de Kinshasa.
C'est aussi pour nous l'occasion de montrer que nous ne sommes pas intimidés par ce qui s'est passé.
Les militants du groupe État islamique pourraient avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même le génocide en Irak. Conclusion d'un nouveau rapport des Nations Unies.
Et dans moins de 10 minutes, la minute écho avec Jean-Roger Bion, suivi des sports. Mais d'abord, le journal.
Lutte contre Boko Haram. Le Niger affirme aujourd'hui avoir tué plus de 200 combattants de l'organisation islamiste. Des pertes infligées aux djihadistes durant l'offensive terrestre et aérienne menée depuis 10 jours par les armées du Niger et du Tchad dans le nord-est du Nigeria.
En République démocratique du Congo, de violents combats opposaient ce jeudi l'armée congolaise et l'une des nombreuses rébellions dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Et selon l'agence France Presse, de nombreux habitants ont été contraints de fuir Jacques Aristide.
Des civils courant à toute allure pour se réfugier à la MONUSCO, un habitant de Niabiondo qui affirme avoir entendu des bombes tomber dans la nuit. L'une des scènes chaotiques dans le territoire de Masisi, à l'ouest de Goma. Pour le témoin Emmanuel Baloumé, la situation est vraiment grave. Depuis le week-end dernier, les forces armées de la RDC affrontent les combattants de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain dans cette localité du Nord Kivu. Un officier de l'armée a confirmé que les rebelles avaient attaqué Niabiondo la nuit dernière, mais que les FRDC les avaient déjà délogés. D'après le même officier, il n'y a pas eu de blessés dans les rangs de l'armée jusque-là et la situation est sous contrôle. Pour sa part, l'administrateur adjoint du territoire de Masisi a déclaré que les habitants de Niabiondo commençaient à regagner leur domicile. Toutefois, Abraham Mawetawabo, le chef de la localité, a lui affirmé que d'autres habitants étaient toujours inquiets et pliaient bagages ce jeudi pour quitter Niabiondo et se réfugier à Masisi Centre et à Goma.
Et toujours au sujet de la RDC, les Nations Unies et les autorités congolaises discutaient du futur de la MONUSCO aujourd'hui au Conseil de sécurité, alors que l'exercice actuel de la mission onusienne se termine fin mars. Le ministre congolais des Affaires étrangères a réclamé un départ rapide des casques bleus. Le patron de la MONUSCO, lui, a plaidé pour un retrait progressif. Sur le terrain, près de 180 associations congolaises demandent un nouveau mandat fort pour la MONUSCO afin de stabiliser l'est du pays et garantir des élections apaisées.
Et sachez aussi que 6 militants congolais pro-démocratie arrêtés le week-end dernier à Kinshasa ont été libérés. Il s'agirait de 6 rappeurs, indique le collectif de défense des activistes cité par l'AFP. Plusieurs autres activistes restaient encore détenus au secret.
Au Tchad, les cours ont repris aujourd'hui dans la commune de N'Djamena après avoir été suspendus la semaine dernière par les autorités suite aux violents incidents liés à l'imposition du casque aux motocyclistes. Des incidents qui avaient coûté la vie à un étudiant. En dépit des concertations avec les autorités, les étudiants maintiennent leur mot d'ordre de grève illimité, réclamant notamment la démission du ministre de l'Intérieur et du chef de la police nationale. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction du ministre tchadien de la communication, Hassan Sila Ben Bakari.
Le gouvernement a appelé à une reprise de cours dans la commune de N'Djamena, parce que dans tout le Tchad, les cours se poursuivent normalement, comme vous le savez. Et le 9 mars dernier, quand nous avions fermé les instituts universitaires et scolaires, C'était pour permettre à ce que nos enfants puissent avoir le calme et la sérénité nécessaires pour étudier dans la tranquillité et la sérénité. Tous les acteurs ont été reçus par son excellence président de la République, chef de l'État, notamment même les étudiants. Ils ont été reçus, leur bureau a été reçu par le chef de l'État. Ils ont posé leur demande. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a une enquête qui est ouverte. Cette enquête se poursuit. Le procureur de la République lui-même suit cette affaire de près. Nous attendons que la justice fasse son travail. Et comme nous sommes dans le cadre de droit, nous n'allons pas interférer. Donc, j'espère que les étudiants vont revenir à bénir sentiment et qu'ils reprendront le chemin de l'école. Parce qu'il va de l'intérêt de tous que la vie étudiantine reprenne normalement.
Le ministre tchadien de la Communication, Hassan Sila Ben Bakari.
Lutte contre Ebola en Sierra Leone. Les autorités prévoient un confinement de 3 jours dans la région de Freetown, la capitale, pour endiguer l'épidémie. Le point avec Camille Gros-Didier.
Quelques 2,5 millions d'habitants sont concernés par cette mesure qui prendra effet la semaine prochaine à compter du vendredi 27 mars. Ce confinement sera similaire à celui qui avait été imposé en septembre, souligne le Centre national de lutte contre Ebola qui est cité par l'agence France Presse. À l'occasion d'une gigantesque campagne de porte-à-porte, les autorités entendent détecter les cas qui n'ont pas encore été signalés ou enregistrés. Des équipes interrogeront les habitants sur la présence de malades et leur rappelleront les dangers des pratiques funéraires rituelles impliquant le toucher du corps, particulièrement contagieux dans le cas de mort d'Ebola. D'après le Centre national de lutte contre Ebola, la population devenue négligente emmène les malades chez les guérisseurs traditionnels au lieu des centres spécialisés contre Ebola. Les autorités déplorent aussi les risques courus par ceux qui lavent les cadavres.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Tunisie, les autorités ont arrêté 9 personnes en rapport avec le massacre d'hier qui a coûté la vie à 20 touristes et à 3 Tunisiens au musée du Bardo à Tunis. La présidence tunisienne n'a fourni aucun autre détail sur ces suspects. Les précisions de Michel Joseph.
Les autorités avaient annoncé quelques heures après l'attaque que la police était à la recherche de complices. Les deux hommes armés qui ont été abattus au musée par les forces de sécurité s'appelleraient Yassine Lahabidi et Hatem Kachnaoui. Ils avaient tiré sur les touristes devant le bâtiment avant de prendre en otage un petit groupe d'entre eux. Selon le président du Parlement, Mohamed Ennasser, la cible des terroristes était non seulement le musée national, mais aussi le Parlement, deux symboles nationaux pour envoyer un message. Pour sa part, la présidence tunisienne a annoncé aujourd'hui que l'armée va participer à la sécurisation des grandes villes, tout en précisant, et je cite, « on n'est pas en état de siège ». La révision du système de sécurisation des frontières est également envisagée.
Au Yémen, un avion de guerre non identifié a attaqué le palais présidentiel dans la ville d'Aden au sud du pays. Des combats opposent deux camps rivaux près de l'aéroport de la ville. Les forces fidèles à l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh ont attaqué l'aéroport international d'Aden tôt ce matin, déclenchant une bataille avec les milices fidèles au président Abdelrabou Mansour Hadi, le chef de l'État reconnu par la communauté internationale. Les deux camps se sont également livrés à de violents combats dans d'autres parties du pays. Et selon un correspondant de la VOA citant une source présidentielle, Abdelrabou Mansour Hadi, je cite, « sain et sauf et en sécurité ».
Les militants du groupe État islamique pourraient avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité en Irak et même un génocide contre la minorité yazidi. Les faits sont documentés dans un nouveau rapport du chef des droits de l'homme des Nations Unies. Le document soumis au Conseil des droits de l'homme détaille les meurtres, les enlèvements, la torture et d'autres violations décrites par plus de 100 témoins et survivants des attaques qui ont eu lieu en début juin de l'année dernière. À l'époque, les militants islamistes avaient envahi plusieurs parties de l'Irak.
Les discussions sur le nucléaire iranien se poursuivent à Lausanne, en Suisse. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Jafar Zarid ont fait état de progrès. Un négociateur européen cité par l'AFP a cependant prévenu qu'on était loin d'un accord. Ce nouveau cycle de pourparlers entre l'Iran et le groupe 5+1 composé des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne vise à sceller un règlement politique avant le 31 mars. Un tel document garantirait que l'Iran ne fabrique jamais la bombe atomique en échange d'une levée de sanctions internationales.
En Israël, Isaac Herzog, dont l'Union sioniste a terminé deuxième lors des élections législatives, affirme que le parti ne rejoindra pas le prochain gouvernement de coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Herzog a déclaré à la radio de l'armée d'Israël que l'Union sioniste sera une force d'opposition au gouvernement de droite. Le Likoud, le parti de Netanyahou, a remporté 30 sièges sur les 120 à l'Assemblée, dépassant les 24 de l'Union sioniste. Netanyahou a dit qu'il prévoyait former un gouvernement dans les 2 à 3 prochaines semaines et a déjà eu des échanges avec les petits partis pour former la coalition dont il a besoin pour gouverner.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Billon.
La Société Générale entre dans l'actionnariat de MCB Mozambique. En invitant la Société Générale à se joindre à l'actionnariat, le groupe MCB, le plus gros consortium bancaire mauricien, veut accélérer le développement de sa filiale mozambicaine. Les deux entités uniront ainsi leurs forces afin d'offrir encore plus de moyens à la banque pour étoffer ses services. On écoute Ryan Kopama, il est l'un des porte-parole du groupe.
Avec une des plus fortes croissances mondiales enregistrées au cours de la dernière décennie, le Mozambique présente aujourd'hui un fort potentiel de développement, et notamment en matière d'infrastructures résultant de la découverte récente de gisements de gaz. Selon le FMI, le Mozambique devrait enregistrer une croissance économique de 7,5% en 2015.
Le taux d'inflation du Nigeria grimpe à 8,4%. Selon le Bureau national des statistiques, ce taux a augmenté pour le troisième mois consécutif. Cela est en partie dû, d'après le communiqué de la NBS, mercredi à Abuja, au prix des denrées alimentaires, dont le taux d'inflation a pris de l'envol pour atteindre les 9,4%. Et les États-Unis se préoccupent de la force du dollar. L'une des conséquences de la montée du billet vert est que le déficit des comptes courants est à son niveau le plus haut depuis 2012. Il représente désormais 2,6% du produit intérieur brut. Janet Yellen, présidente de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, qui a largement contribué à l'appréciation du billet vert en laissant entrevoir un prochain resserrement monétaire, a elle-même reconnu mercredi que la force du dollar serait un poids.
Voilà pour la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Voilà, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports et ça avec Timothée Donangmaya.
Bonsoir à tous. Qui affrontera le Nigeria en finale de la CAN 2015 de moins de 20 ans au Sénégal? On le saura ce soir à l'issue de la partie qui oppose le Mali au pays hôte. Hier, les Flying Eaglets ont décroché leur billet pour la finale en battant par 2-0 leurs homologues du Ghana, deux buts d'Obinna Nwobo et de Moussa. Toujours en football africain, Alain Giresse a signé aujourd'hui son retour à la barre des Aigles du Mali. Il avait été remercié par le Sénégal après une campagne infructueuse à la CAN 2015. Giresse avait quitté les Aigles maliens il y a 3 ans. Et puis, vive sortie du ministre russe des Sports contre l'appel au boycott du Mondial 2018 de football en Russie, lancé par le président ukrainien Petro Poroshenko. Le sport doit être au-dessus de la politique, a fait savoir Vitali Mutko. En voyage en Allemagne en début de semaine, le président Poroshenko avait appelé au boycott du Mondial 2018 si la Russie ne retire pas ses troupes d'Ukraine. Moscou assure de son côté n'avoir pas de troupes dans ce pays. Quelques résultats de la NBA, le championnat professionnel nord-américain de basketball professionnel pour terminer. Golden State a battu Atlanta 114-95. Et après une prestation qualifiée de pathétique par son coach Greg Popovich, San Antonio s'est ressaisi hier soir pour défaire Milwaukee 114-103. Miami victorieux par 108-104 face à Portland hier soir. Victoire de Cleveland sur Brooklyn 117-92. Et à noter aussi cette victoire de Chicago contre Indiana 103-86 et celle de Washington 88-84 contre Utah. C'était, il faut le préciser, la 5e victoire consécutive du club de la capitale fédérale contre Utah Jazz.
Voilà, les nouvelles sportives étaient signées Timothée Donangmaya.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Agassi Kouraï, Morgan Guiriek, en votre compagnie, place maintenant au dossier du jour.
Première escale, le Niger, qui est pris en étau entre plusieurs foyers de tension. La Libye au nord, le Mali à l'ouest et le Nigeria au sud. Malgré toutes ces crises aux alentours, la vie politique nigérienne est tout aussi agitée. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, a fui le pays après des accusations de trafic de bébés. L'opposition menace de boycotter les futures échéances électorales de 2016. Et le président Mahamadou Issoufou, après 4 ans au pouvoir, ne laisse aucun doute sur ses intentions de briguer un second mandat. Notre envoyé spécial à Niamey, Idriss Fall, a recueilli l'avis de Mohamed Bazoum, ancien ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui ministre d'État à la présidence et président du PNDS, le parti au pouvoir.
Oui, tout à fait. Notre parti, le PNDS, a un candidat naturel, c'est le président Issoufou. Pour le bilan qui est le sien, il est nécessaire qu'il continue ce travail. Nous en ferons notre candidat aux prochaines élections de l'année 2016.
Est-ce que c'est gagné d'avance?
Ce n'est pas gagné d'avance parce qu'il s'agira d'une élection libre, démocratique et transparente. Tant qu'on n'aura pas vu les différents candidats, il est difficile de faire de pronostic. Cela dit, le président Issoufou avait fait un score de plus de 36% au premier tour de l'élection de l'année 2011. Parce qu'il a bien travaillé, parce qu'il est mieux connu. Il a stabilisé le Niger en dépit d'un contexte régional très mouvementé. Les Nigériens seront en majorité favorables pour le reconduire à la tête de l'État.
Il y a un opposant de taille, notamment l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, qui vit en exil et dit être victime d'une liquidation politique par ce procès sur le trafic présumé des bébés.
Monsieur Ama, en même temps qu'il dit ça, dit que les bébés appartiennent bel et bien à sa femme. Il lui suffirait alors d'accepter que sa femme se soumette à un test ADN qui prouve que ses enfants lui appartiennent. Et à partir de ce moment, Monsieur Ama Amadou n'aurait plus de raison de rester à l'extérieur, n'aurait plus de raison de craindre la justice, pourrait revenir et engager le combat pour l'élection de l'année 2016. Il en a le temps.
Les autres opposants, y compris Hama, Mohamed Ousmane, disent qu'il peut boycotter le scrutin avec l'actuelle Cour constitutionnelle.
S'ils devaient ne pas prendre part aux élections parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la Cour constitutionnelle, nous n'avons pas de remède. La Cour constitutionnelle du Niger, ses membres, qui sont au nombre de 7, sont la plupart d'entre eux, à part le représentant du président de la République, élus, soit par des magistrats, des avocats, des professeurs d'université, enseignants de droit. Ces élections se sont passées dans des conditions de transparence absolue et il n'y a aucune possibilité légale de faire les changements. Invoquer un tel argument pour expliquer qu'on ne prenne pas part à des élections me paraît relever de la mauvaise foi. Demanderont tout simplement à l'opposition de se trouver d'autres alibis, mais pas celui-ci.
Mohamed Bazoum, ancien ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui ministre d'État à la présidence.
La Voix de l'Amérique au Niger, sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondjouti.
Au Burkina Faso, les membres du Ballet Citoyen disent qu'ils réservent un grand accueil à leur camarade Ossibi Joan, expulsé de Kinshasa. Il faisait partie des militants pro-démocratie arrêtés ce week-end à Kinshasa. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé hier de les expulser après leur libération. Maître Guy Hervé Kam est le porte-parole du Ballet Citoyen. Il nous dit d'abord comment il a accueilli la libération de leur camarade.
Avec un très grand soulagement, mais aussi une très grande joie, parce que nous imaginons comment ces 3 jours ont été pénibles pour lui. Pour quelqu'un qui était juste parti pour des échanges d'expérience dans le cadre donc de l'engagement citoyen des jeunes, se retrouver à être traité de terroriste, d'insulteur militaire et tout ça, je pense que tout ça c'est pénible. Mais en même temps aussi, nous accueillons ça avec beaucoup de détermination parce que nous savions de toute façon que ce n'est jamais facile de se lancer dans ce genre de combat, dans ce genre d'idéal, quoi.
Les autorités congolaises parlent d'immission, hein, dans leur politique intérieure.
Oui, mais ils ont sans doute oublié que les temps ont changé et qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde globalisé et que déjà l'Afrique des populations existe bel et bien déjà. C'est pour ça d'ailleurs que nous avions bénéficié de l'appui de la jeunesse sénégalaise et c'est tout à fait normal qu'avec la jeunesse sénégalaise nous puissions apporter notre contribution. Là où besoin se fait, c'est ce que les autorités donc congolaises n'avaient pas compris. Quoique, on se souvient qu'eux-mêmes avaient envoyé des émissaires ici au Burkina le 30 octobre pour prendre l'expérience burkinabé en matière donc écriture de la Constitution. Malheureusement, ça s'est mal passé. Et donc aujourd'hui, ils en veulent à ceux qui cherchent à partager l'expérience. C'est dommage.
Il semble que vous vous organisez pour lui réserver un grand accueil.
Ben oui, il le mérite. C'est aussi pour nous l'occasion de montrer que nous ne sommes pas intimidés par ce qui s'est passé.
Est-ce que les débats sur la possible modification constitutionnelle au Congo, ça vous intéresse là-bas au Burkina? Ça vous inquiète aussi?
Ben, ça nous intéresse, ça nous inquiète parce qu'on a toujours parlé donc des syndicats de chefs d'État. Et comme nous le disions, le développement de l'Afrique, soit toute l'Afrique va se développer, soit personne ne va se développer. Nous sommes tellement liés qu'il faut que cette question-là soit réglée dans l'ensemble des pays et qu'enfin on puisse commencer à parler de développement. Toutes les énergies que nous mettons dans ce combat-là, si c'était mis sur les questions de développement, je pense que l'Afrique aura avancé.
Voilà, c'était Maître Guy Hervé Kam du Ballet Citoyen que j'ai joint à Ouagadougou.
Des milliers de personnes fuyant les attaques de Boko Haram dans le nord du Nigeria ont récemment traversé la frontière pour passer au Tchad. Des populations qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, affirme Stéphanie Giandonato, chef de mission Médecins sans frontières au Tchad.
On parle environ de 18 000 réfugiés qui sont en ce moment sur la zone de Bagassola, mais aussi il y a un certain nombre de populations réfugiées qui est dans le lac Tchad, dans les îles en fait.
Et vos équipes ont pu se déployer sur le terrain?
Depuis les attaques menées par Boko Haram donc dans le nord-ouest du Libéria et suite à l'afflux des réfugiés, mais aussi suite au déplacement interne des populations, MSF a dépêché une équipe d'urgence dans la région pour évaluer les besoins. Nous sommes donc actuellement sur Bagassola, mais nous avons aussi fait des visites sur Ngoubwa.
Les réfugiés manquent de tout.
Le HCR a bien sûr dépêché un camp pour accueillir l'arrivée des réfugiés. Donc les conditions dans le camp sont selon les standards de l'HCR. Certainement, les déplacements ont de l'extrême nord du Nigeria jusqu'au lac. C'est un déplacement qui est très long et très dur. Donc les populations ont certainement beaucoup souffert d'un point de vue physique et psychologique en fuyant des attaques. Il y a aussi une partie de la population tchadienne qui est déplacée et certainement les conditions de vie sont chères.
MSF a fourni à une partie des réfugiés des kits médicaux.
Nous avons fait une donation au centre de santé de Ngoubwa où avant l'attaque il y avait une présence de réfugiés. Et nous avons donc fait une donation d'un kit qui aidera à soigner environ 1000 personnes. Et qui a été fait en collaboration, bien sûr, avec le ministère de la Santé.
Vous vous préoccupez de l'accès à une eau potable saine, puisque cela manque dans la région?
Alors, le problème de l'accès à l'eau potable et de qualité est certainement un problème chronique de la zone. Donc, afin de pouvoir réduire le risque de maladies hydriques, nous avons fait une distribution sur Ngoubwa de kits pour le traitement d'eau à domicile. Médecins sans frontières est certainement inquiet par rapport à la situation, mais nous sommes présents dans la zone et donc ceci va nous permettre d'évaluer les besoins humanitaires et sanitaires qui vont certainement continuer pendant cette période.
Voilà, c'était Stéphanie Giandonato, chef de mission de Médecins sans frontières au Tchad, où elle était jointe par Camille Gros-Didier.
Retour sur l'attaque d'hier contre le musée du Bardo de Tunis qui a coûté la vie à 21 personnes. Le groupe État islamique a en a revendiqué la responsabilité dans un message audio diffusé ce jeudi sur les sites djihadistes menaçant de mener d'autres attaques en Tunisie. Pour un éclairage, Idrissa Sedoudia a joint notre confrère Moudi Béchir à Tunis.
On parle de l'intrusion, de l'entrée de quelques partisans de l'État islamique qui vient du sud de la Libye, disciplinés au point de vue religion et surtout la religion basée sur la violence contre les soldats, les agents de la sûreté. Et maintenant, la violence se vient contre les civils. Et maintenant, ils ont changé de tactique en contrepartie vu les répliques positives des agents de la sûreté et de l'armée tunisienne.
On a parlé de revoir la sécurité aux frontières. Et est-ce à dire que vous craignez que ce danger est venu surtout de Libye?
En très grande partie, un fort pourcentage, quelques infiltrations. Nos limites, nos frontières sont bien gardées par nos soldats, etc. Mais il se peut qu'il y a quelques intrusions, surtout comme je l'ai dit, il y a cette aide entre le terrorisme et la contrebande. Certainement, les contrebandes ils cachent la marchandise, mais ils peuvent cacher aussi les intrus, les terroristes qui peuvent entrer secrètement dans le territoire tunisien. Et ils font de ce qu'ils ont fait, mais c'est surtout maintenant, comme je l'ai dit, ils ont changé de tactique, ils vont attaquer maintenant les civils en plein jour, et surtout avec les touristes, le musée de Bardo est connu.
De façon générale, au Moyen-Orient, le fondamentalisme avec Ennahda chez vous en Tunisie était connu pour, n'est-ce pas, sa forme très modérée de l'islam. Comment expliquer ce changement tout d'un coup où il y a des jeunes qui adoptent cette forme virulente, si je puis dire, de l'islam djihadiste?
Oui, Nava, en tant que parti, dit toujours qu'il n'est pas extrémiste, mais certainement il y a quelques disons, dirigeants qui sont un peu orientés vers ce groupuscule-là qui cherche la mort et les dégâts, non matériels, mais les gars en cadre humain. Et donc certainement, ils ont influencé les jeunes que par certains cadres de groupes du parti Ennahda, certains cadres, mais et surtout par les imams.
Voilà, c'était le journaliste tunisien Mouldi Béchir, joint à Tunis.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, avant de nous séparer, le rappel des titres.
Le Niger affirme avoir tué plus de 200 combattants de Boko Haram au cours des 10 derniers jours.
En République démocratique du Congo, de violents combats opposaient ce jeudi l'armée congolaise à l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre. C'est dans le nord au Kivu.
En Tunisie, les autorités ont arrêté 9 personnes en rapport avec le massacre d'hier qui a coûté la vie à 20 touristes étrangers et à 3 Tunisiens au musée du Bardo à Tunis.
Et puis en RDC, libération des 6 rappeurs arrêtés le week-end dernier.
À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma, présentation Morgane Diriek et Bagessi Koura.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.